Division du travail et formes de propriété. Les rapports des différentes nations entre elles dépendent de la proportion dans laquelle chacune a déployé ses forces productives, la division du travail et le commerce intérieur. Ce principe est universellement admis. Or, non seulement les rapports d'une nation avec les autres, mais aussi toute son organisation interne, dépendent du degré de développement de sa production et de son commerce intérieur et extérieur. C'est au degré où la division du travail s'accentue que l'on reconnaît avec le plus d'évidence la mesure où les forces productives d'une nation sont déployées. Toute nouvelle force productive, pour autant qu'elle n'est pas un simple élargissement quantitatif des forces productives déjà connues, par exemple le défrichement des terres, entraîne un nouveau perfectionnement de la division du travail. La division du travail à l'intérieur d'une nation conduit tout d'abord à la séparation du travail industriel et commercial d'avec le travail agricole, d'où la séparation de la ville et de la campagne et l'opposition de leurs intérêts. Son extension ultérieure conduit à la séparation du travail commercial et du travail industriel. En même temps, avec la division du travail au sein de ces différentes branches, apparaissent à leur tour diverses subdivisions parmi les individus coopérant à des travaux déterminés. L'ordonnance de ces divisions particulières, les unes par rapport aux autres, est déterminée par le mode d'exploitation du travail agricole, industriel et commercial. Entre parenthèses, patriarcat, esclavage, ordre et classe. Les mêmes conditions apparaissent dans les relations entre les différentes nations lorsque les échanges sont plus développés. Les divers degrés d'extension de la division du travail constituent autant de formes diverses de la propriété. Autrement dit, chaque fois qu'elle atteint un nouveau degré, la division du travail détermine aussi les rapports des individus entre eux quant aux matériaux, aux instruments et aux produits du travail. La première forme de la propriété, c'est la propriété tribale. Elle correspond à ce niveau peu développé de la production, où un peuple se nourrit de la chasse et de la pêche, de l'élevage, ou, à la rigueur, de l'agriculture. Ce dernier cas suppose de nombreuses terres en friche. Encore très rudimentaire à ce stade, la division du travail se borne à un élargissement de la division naturelle des tâches propres à la famille. L'organisation sociale se réduit dès lors à une extension de la famille. Chef de la tribu patriarcale avec, au-dessous d'eux, les membres de la tribu, puis les esclaves. Latent dans la famille, l'esclavage se développe d'abord, peu à peu, avec l'accroissement de la population et des besoins, puis avec l'extension des contacts extérieurs, qu'il s'agisse de la guerre ou du troc. La deuxième forme est l'antique propriété communale et publique, laquelle résulte surtout de la réunion, par contrat ou conquête, de plusieurs tribus en une ville où l'esclavage subsiste. En même temps que la propriété communale, se développe déjà la propriété privée mobilière et plus tard immobilière, mais comme une forme anormale et subordonnée à la propriété communale. Ce n'est qu'à l'intérieur de leur communauté que les citoyens ont pouvoir sur leurs travailleurs esclaves. Les voilà déjà liés à la forme communale de la propriété. C'est la propriété privée communautaire des citoyens actifs qui les astreint, en face des esclaves, à se maintenir sous cette forme d'association naturelle. C'est pourquoi toute l'organisation sociale fondée sur elle, et avec elle le pouvoir du peuple, décline dans la mesure même où se développe surtout la propriété privée immobilière. Avec la division du travail plus poussée, nous trouvons déjà l'opposition de la ville et de la campagne. Plus tard, l'opposition entre États, ceux qui représentent l'intérêt des villes et ceux qui représentent l'intérêt des campagnes. Et enfin, à l'intérieur des villes elles-mêmes, l'opposition entre l'industrie et le commerce maritime. Le rapport de classe entre citoyens et esclaves est pleinement constitué. avec le développement de la propriété privée, apparaissent pour la première fois, mais à une échelle plus étendue, les mêmes rapports que nous retrouvons dans la propriété privée moderne. D'une part, la concentration de la propriété privée, qui commença très tôt à Rome, prit une rapide extension avec les guerres civiles, en particulier sous l'Empire. D'autre part, en liaison avec ce fait, la transformation de petits paysans plébiens en un prolétariat qui cependant, étant donné sa position mitoyenne entre les citoyens possédants et les esclaves, ne parvint pas à s'épanouir dans l'indépendance. La troisième forme est la propriété féodale, ou propriété dans le régime des ordres. Si l'Antiquité partait de la ville et de son petit territoire, le Moyen-Âge partait de la campagne. Ce point de départ tenait à la dispersion et à l'éparpillement, sur de vastes espaces, de populations existantes, que les conquérants ne grossirent pas. Contrairement à ce qui se passe en Grèce et à Rome, l'évolution féodale commence donc sur un terrain beaucoup plus étendu, préparé par la conquête romaine et l'extension de l'agriculture qui en résulta initialement. Le déclin de l'Empire romain dans ses derniers siècles, et les conquêtes même des barbares, détruisirent une masse de forces productives. L'agriculture avait sombré, l'industrie dépérissait faute de débouchés, le commerce languissait ou se trouvait interrompu par la violence. La population urbaine et rurale avait diminué. Cet état de choses et le mode d'organisation de la conquête qui en découla développèrent, sous l'influence de la constitution militaire germanique, la propriété féodale. Celle-ci repose, comme la propriété tribale et communale, sur une communauté. Sauf que ce ne sont plus les esclaves, comme dans l'Antiquité, mais les petits paysans asservis qui en constituent la classe directement productrice. En même temps que la pleine constitution de la féodalité, apparaît l'opposition aux villes. L'organisation hiérarchique de la propriété foncière, avec ses suites armées, assurait à la noblesse le pouvoir sur les serfs. Cette organisation féodale, tout comme l'antique propriété communale, était une association contre la classe productrice assujettie. Seulement, la forme de l'association et les rapports avec les producteurs directs les différenciaient, parce que les conditions de production étaient différentes. À cette organisation féodale de la propriété foncière correspondait, dans les villes, la propriété corporative, organisation féodale des métiers. La propriété y constituait essentiellement dans le travail de chaque individu. La nécessité de s'unir contre la noblesse de rapines associées, le besoin de marchés couverts communs à une époque où le fabricant était en même temps commerçant, la concurrence croissante des serfs évadés qui affluaient vers les villes prospères, l'organisation féodale de tout le pays furent à l'origine des corporations. Les petits capitaux, graduellement épargnés par des artisans isolés et dont le nombre était stable au sein d'une population croissante, développèrent le système des compagnons et des apprentis, lequel donna naissance dans les villes à une hiérarchie semblable à celle de la campagne. D'un côté, la propriété principale, durant l'époque féodale, consistait dans la propriété foncière et le travail des serfs attachés à la glèbe, et, de l'autre, dans le travail individuel, muni d'un petit capital, et dominant le travail des compagnons. Dans les deux cas, l'organisation était déterminée par des rapports de production bornés, agriculture limitée et rudimentaire, industrie artisanale. À l'apogée de la féodalité, la division du travail fut un phénomène rare. Au sein de chaque pays, villes et campagnes s'opposaient. À la vérité, l'organisation en ordre était très précisément articulée, mais, hormis la séparation entre princes, noblesse, clergé et paysans à la campagne, et entre maîtres, compagnons, apprentis et bientôt aussi plèbe des journaliers dans les villes, il n'y eut pas de division importante. Ce qui la rendait difficile à la campagne, c'était l'exploitation parcellisée, jointe à l'industrie domestique des paysans eux-mêmes. La division du travail dans l'industrie était nulle au sein des divers métiers, et très faible d'un métier à l'autre. Présente dans les villes anciennes, la division de l'industrie et du commerce ne se produisit que plus tard dans les villes nouvelles, quand les villes commencèrent à nouer des rapports entre elles. La réunion de pays étendus, en royaumes féodaux, était une nécessité pour la noblesse terrienne comme pour les villes. L'organisation de la classe dominante, la noblesse, eut donc partout un monarque à sa tête. Toute cette conception de l'histoire semble être démentie par le phénomène de la conquête. Jusqu'à présent, c'est la violence, la guerre, le pillage, le crime crapuleux, etc., qui ont été considérés comme le moteur de l'histoire. Devant nous borner ici aux points essentiels, nous prendrons seulement l'exemple le plus frappant. La ruine d'une vieille civilisation par un peuple barbare, et conjointement, la genèse d'une nouvelle organisation de la société. Note de bas de page, voir Rome et les barbares, la féodalité et la Gaule, l'Empire d'Orient et les Turcs. Fin de la note de bas de page. Pour le barbare conquérant, la guerre elle-même est encore, comme nous l'avons déjà indiqué, un mode de commerce normal que l'on exploite avec d'autant plus de zèle que l'accroissement de la population, vu le mode de production traditionnel et rudimentaire, seul possible pour ce peuple, suscite le besoin de nouveaux moyens de production. En Italie, au contraire, la concentration de la propriété foncière, note de bas de page, concentration provoquée non seulement par l'accaparement et l'endettement, mais encore par l'héritage, étant donné que les vieux lignages s'éteignirent peu à peu, à cause de l'extrême dérèglement de leurs mœurs et de la rareté des mariages, et que leurs biens tombèrent aux mains d'un petit nombre. Fin de la note de bas de page. En Italie, au contraire donc, la concentration de la propriété foncière, sa transformation en pâturage, fit disparaître peu à peu complètement la population libre. Note de bas de page. Cette transformation n'eut pas seulement les causes économiques ordinaires, qui agissent encore de notre temps, mais elles étaient dues aussi à l'importation de blé volé ou extorqué, causant la pénurie de consommateurs pour le blé italien. Fin de la note de bas de page. La mort exerça ses ravages parmi les esclaves eux-mêmes, qu'il fallait constamment remplacer par de nouveaux. L'esclavage restait la base de toute la production. Placés entre les hommes libres et les esclaves, les plébiens ne s'élevèrent jamais au-dessus du niveau d'un lumpen prolétariat, d'un sous-prolétariat. D'une manière générale, Rome n'excéda jamais les limites de la ville, et ses relations avec les provinces, qui furent presque exclusivement politiques, pouvaient naturellement, à leur tour, être interrompues par des événements politiques. Rien de plus coutumier que l'idée selon laquelle, jusqu'ici, une seule chose a compté dans l'histoire, prendre. Les barbares prirent l'Empire romain. Et c'est le fait de cette prise que l'on invoque pour expliquer la transition du monde ancien à la féodalité. Toutefois, dans la prise opérée par les barbares, ce qui importe, c'est de savoir si la nation conquise a déployé des forces productives industrielles, comme c'est le cas chez les peuples modernes, ou si ces forces productives reposent principalement sur la seule association et sur la communauté. Le fait de prendre dépend, en outre, de l'objet que l'on prend. La fortune d'un banquier, composée de valeurs papier, ne peut point être prise sans que le preneur se soumette aux conditions de production et de circulation du pays pris. Il en est de même de l'ensemble du capital industriel d'un pays industriel moderne. Et finalement, n'importe où, c'en est très vite fait de ces prises, et quand il n'y a plus rien à prendre, il faut bien commencer à produire. De cette nécessité de produire qui se manifeste très tôt, il résulte que la forme de communauté adoptée par les conquérants en train de s'établir doit correspondre au niveau de développement des forces productives déjà existantes. Et si tel n'est pas le cas, dès l'abord, elle doit se modifier en fonction des forces productives. On tient ici la clé du phénomène que l'on prétend avoir observé partout au lendemain des grandes invasions. À savoir que l'esclave fut le maître et que les conquérants n'ont pas tardé à adopter la langue, la culture et les mœurs des peuples conquis. La féodalité ne fut nullement exportée toute faite d'Allemagne, mais elle eut son origine, du côté des conquérants, dans l'organisation guerrière de l'armée pendant la conquête même. Et ce n'est qu'après cette conquête, sous l'influence des forces productives des pays conquis, que cette organisation devint, en se développant, la féodalité proprement dite. Les vaines tentatives d'imposer d'autres formes, issues de réminiscences de l'ancienne Rome, montrent à quel point cette forme féodale dépendait des forces productives.